si moi je change ma façon à moi de réagir devant la colère de mon partenaire en répondant à son besoin, tranquillement, je vais modifier le scénario conjugal et qu'elle le veuille ou pas, elle va finir par changer. Et j'aurais été à l'origine de ça. C'est pour ça que, une autre façon de voir le mode d'emploi du couple, moi, je me considère responsable à 100% de mon couple. Pas à 50% comme les couples malheureux, 50-50, donnant-donnant. Ça ne marche pas les formules donnant-donnant. Si tu changes, je vais changer. Si tu me donnes ça, je vais te donner ça. Ça ne marche pas. Je suis responsable de mon couple à 100%. La partie que je mets ici, comme elle est responsable de son couple à 100% de ce qu'elle met là-dedans, la façon dont elle va agir, réagir à la façon dont elle va émettre les choses, la façon dont elle va interpréter ce que moi je mets. Elle est responsable à 100% de ça. Je ne suis pas responsable de sa colère. Je suis responsable de mon retard à 100%. Ça, ça donne que c'est le même couple. C'est le même lieu d'habitation. Ce sont les mêmes enfants, c'est le même budget. C'est sûr qu'à ce moment-là, il faut apprendre à... Hein? Les couples qui sont composés de deux membres qui prennent la responsabilité, et pour moi, il n'y a pas de thérapie conjugale sans prise de responsabilité à 100% de ce que je suis dans le couple, ces couples-là, finalement, investissent du 200%. Alors que les couples malheureux investissent 50-50. C'est pour ça que 80% des couples ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas à long terme. Une fois la lune de miel passée, c'est du 100%. Dans les couples malheureux, qu'est-ce qui se passe? On vit le même couple. Hein? On pense qu'on vit le même couple, mais dans les couples où il y a un dépendant émotif et un contre-dépendant, ben, le dépendant, lui, vit son couple comme ceci. Il a l'impression qu'il n'y a pas de couple. Et le contre-dépendant émotif, lui, il est envahi par le couple. Il veut prendre de la distance. Mais l'autre, s'il prend de la distance, il va en avoir encore moins. Et j'utilise cette approche-là, après avoir expliqué à mes clients comment ça se passe, 1 plus 1 égale 3, je leur demande de dessiner comment ils sentent leur couple. Et j'ai souvent ce genre de dessin-là. Le dominant ou le contre-dépendant, ou le dépendant ou le dominé, il n'est pas dominé. Et il faut sortir du paradigme d'un couple où il y a un dominant et un dominé. Il y a deux acteurs dans un couple, responsables à 100% de leur rôle, de leur manuscrit, de leur scénario. Okay? Et dans un couple, il ne peut y avoir, sauf exception, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont psychopathes ou sociopathes ou vraiment manipulateurs, mais dans la majorité des couples, il y a ou deux gagnants ou deux perdants. On ne peut pas avoir un gagnant et un perdant. C'est pour ça qu'il faut sortir de « j'ai raison, tu as tort ». Parce que si j'ai raison, tu as tort, tu vas me faire payer. Vous avez Thomas Dansbourg, un concitoyen du nord de votre pays, qui a écrit un livre merveilleux. « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». L'idéal, c'est d'être vrai gentil. Mais si je suis gentil, moi qui avais le goût de rester vendredi soir à la maison, mais pour te faire plaisir, je vais aller au restaurant avec toi, parce que toi, tu avais le goût de voir du monde. Ben, je vais te le faire payer, ma sortie. Compte sur moi. Il est bien lent, ce service-là. Il y a beaucoup de boucanes ici, fumées. Okay? C'est pas bon. J'ai été gentil, mais je vais te le faire payer. Dans les couples malheureux, c'est ce qu'on fait. Une question, hein? Vous me dites quand c'est terminé, non? Oui, il y a une autre question? Écoutez, ce que je viens de vous dire, c'est le contenu de mon prochain livre. On me demande souvent, c'est lequel votre dernier livre? C'est mon dernier livre, il est encore ici. Ce que je viens de vous dire, c'est le contenu de mon prochain livre, qui, j'espère, va sortir pour l'automne prochain. Mais en attendant, il y a deux livres que j'ai écrits. Un s'adresse aux femmes, l'autre s'adresse aux hommes. Comme le principal reproche que les femmes font aux hommes, c'est « mon chum ne parle pas », j'ai écrit « En intention des dames, chérie, parle-moi ». 10 règles pour faire parler un homme des choses importantes de la vie. Ce que vous imaginez qui est important. Okay? Et l'autre livre qui s'adresse aux hommes, homme est fier de l'être, parce que lui m'a pris 6 ans à écrire de recherche, celui-là m'a pris 1 mois. Mais ça faisait 20 ans que j'enseignais à mes clients, parce que, vous voyez, dans les 2 heures, là, quand c'est la femme que je reçois en premier, elle me dit « mon chum, parle pas ». Dans la 2e heure, moi, je demande à monsieur « comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Et il me parle pendant 1 heure, sans arrêt. Et elle me dit « je sais pas comment vous allez faire pour le faire parler ». Alors, parce que dans le monde des hommes, je connais bien le monde des hommes, au niveau de la communication, et on a des règles très simples qui font que si une femme demande « chérie, parle-moi », convaincu que les Français aussi répondent la même chose que les Québécois. Qu'est-ce que tu veux savoir? De quoi veux-tu qu'on se parle? Qui est la première réponse. Donc, la première règle, ne pas poser une question générale, mais poser une question précise. Et la deuxième réaction des hommes à « chérie, parle-moi », c'est « qu'est-ce que j'ai encore fait de travail? » Dans l'homme est fier de l'aide, j'ai un chapitre qui, le 11e, qui s'appelle « Vivre heureux avec une femme. La lecture de ce chapitre est interdite aux femmes. Ça ne s'adresse qu'aux hommes. Si vous achetez le livre, vous lisez les autres, mais pas le chapitre 11. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute attentive. Je vais être pour quelques instants au stand à côté pour vous recevoir et faire des dédicaces si vous le voulez. Merci.